Aujourd'hui, le bien commun numérique et l'opportunité de sortir de crise. La saison sera demain soir, même heure, avec, je l'espère, un petit peu plus de voix. Lui, il portera peut-être conseil au corps local. Donc, aujourd'hui, on va brièvement s'intéresser à cette idée que, qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent un petit peu le bien commun, qui font ça d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui sont dans des associations liées au bien commun. Non. Pardon ? Alors oui, mais je pensais plus directement sur la thématique même du bien commun et engagé sur ce truc-là. Je ne suis pas moi-même un grand spécialiste du bien commun, c'est un truc auquel je m'intéresse fortement. Donc, l'idée c'est un petit peu de découvrir le concept ou d'essayer de partager les choses sur ce qu'il peut y avoir autour de ce concept. De voir un petit peu donc, ce qu'il peut y avoir derrière la idéologie de bien commun, et plus particulièrement du bien commun numérique. Et pourquoi bien les biens communs numériques peuvent être des opportunités de sortie de crise, mais peut-être que maintenant, ils sont des initiateurs de d'autres formes de crise. C'est ce qu'on croisera peut-être au cours de cet exposé. Pour commencer peut-être une petite vidéo, alors je vais être obligé de couper pour vous jeter pour qu'on voit le son. Pour préparer cette conférence, je me suis basé, donc, la première vidéo, pour présenter quelques définitions de personnes qui ont intervenu sur différents événements et qui ont été interrogées et dont on retrouve les différents témoignages sur YouTube, notamment lorsque l'on cherche à partir d'un groupe d'auteurs qui signe sous un pseudo qui est Remix The Commons. Donc on a vu le terme de Remix, si vous mettez Remix Commons, vous aurez probablement ce truc-là qui sortira. Puis quand j'aurai accès au diaporama, il y a aussi le lien vers la vidéo. Ce diaporama, la base de diaporama que je vais utiliser, c'est un diaporama que j'ai retouché ces derniers jours, mais qui était basé sur un diaporama qui nous avait servi à faire une présentation pour la Maison de l'Europe avec Pierre Gosset de Frasos et puis avec Jean-Yves Boyer ici présent. Donc Jean-Yves m'excusera, je n'ai mis que quelques-unes des associations dans lesquelles il peut être intégré sur ce genre de truc. Donc Framasoft, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une association qui anime un ensemble d'outils sur Internet et d'espaces qui font la promotion du logiciel libre sous différentes formes, en mettant à disposition un univers de logiciels, mais aussi des applications qui vous permettent de gérer des rendez-vous en ligne, de faire à plusieurs, donc d'avoir même des tableurs en ligne que vous pouvez partager avec plein de personnes, etc. etc. Qui met à disposition des espaces. Alors j'en ai pas préparé parce que j'ai remarqué que dans les conférences, on était quand même ici très attaché crayon, mais ça permettrait évidemment d'avoir un espèce de bloc-notes électronique partagé permettant de faire des prises de notes collaboratives. J'ai essayé ça avec mes étudiants et j'étais très déçu. Je leur ai mis le plan des conférences que je faisais, ils n'avaient plus qu'à remplir. Et bon, ben, ils n'avaient plus qu'à. Et voilà. J'avais un espace, c'était un petit peu décor. À côté de ça, donc, Pierre-Yves Gosset, donc, c'était sur Framasoft, et Jean-Yves Broyer, qui est donc l'ADIC, c'est l'Association Lyonnaise de Défense de Promotion du Logiciel Libre, donc de développement d'une informatique libre. La Mouette, c'est une association, voilà, petite bête, qui fait la promotion des outils de bureautique libre. Donc, peut-être des logiciels dont vous avez entendu parler, comme LibreOffice, OpenOffice, SkyOffice, etc. etc. Et puis, EPN Lyonnais, c'est-à-dire l'espace public numérique. Donc ce sont des endroits où les publics ont accès à des ressources et des accompagnements sur ces ressources numériques qu'on va trouver notamment dans l'ensemble des bibliothèques françaises. Et dans le réseau donc des bibliothèques municipales, on va trouver dans les lycées, dans les zones quartiers, etc. Donc, brièvement. Alors, la définition, elle a été présentée à l'intérieur. Pardon ? Non, je sais que tu vas bien la définition. Donc, la définition de ce que ce serait qu'un bien commun. Et bien, un bien commun, c'est une ressource partagée par une communauté gérée collectivement par la communauté. On peut même dire cette communauté, mais pas forcément que cette communauté. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de bien commun, on parle à deux niveaux. On parle à la fois au niveau économique, avec le partage d'un bien, d'un objet, quelque chose qui est ici économique et matériel. Et puis, on parle aussi à un niveau politique, parce que ça veut dire qu'il y a un travail de collectif pour arriver à prendre des décisions ensemble autour de cette ressource. Donc, ça veut dire mettre en place différents systèmes de gouvernance permettant la participation de chacune et de chacun des membres de la communauté, ce qui forme. Chez les anglo-saxons, les gens qui font la promotion de sang, la bestiale et le commerce, il n'y a pas une traduction véritable en France. Mais les biens communs, c'est malgré tout quelque chose qui n'est pas nouveau. Si on se replace dans une approche un petit peu plus historique, les biens communs, eh ben, on retrouve ça dans des pratiques agricoles, notamment des pratiques paysannes, des traditions rurales. Ancestrale. Donc moi, quand j'étais petit dans le hameau où j'allais en vacances, eh ben, avec les copains et les copines, on jouait sur un truc qui s'appelle le communal. Quand j'étais petit, je ne savais pas bien ce que ça voulait dire. Puis sur le communal, il y avait un puits, il y avait un aquarium. Et puis les gens qui ramenaient les troupeaux de temps en temps, ben, ils faisaient brouter sur le communal. Et puis tous les paysans laissaient brouter un peu leurs animaux sur le communal. Une fois que de temps en temps le hameau se réunissait pour virer les buissons, les genêts qui venaient envahir le communal, pour rassembler un certain nombre de trucs qu'ils avaient ramassés éventuellement ensemble, et puis c'était l'endroit où on faisait le terrain de boule, les fêtes, etc., etc. Donc c'était effectivement un lieu bien plus en commun. Pour moi, communal, ça voulait dire au départ que c'était la commune, mais non, c'était pas. C'est surtout la communauté plus la communauté. Même si derrière les termes de commune, ben, c'est une communauté. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'histoire et qui a une place importante dans l'élaboration du droit, notamment en 1215, au moment de la Grande Charte en Angleterre et surtout de la Charte des forêts. Et où il y a des rébellions en Angleterre. Lié notamment à ce qu'on pourrait appeler le phénomène, le processus d'enclosure. Le processus d'enclosure qui veut dire qu'il y avait des biens qui étaient gérés, utilisés, pratiqués par l'ensemble de la communauté, et puis à un moment donné, le roi décide de partager et de réguler le fonctionnement de ces espaces-là. Et qu'à partir de ce moment-là, ben, les gens qui bénéficiaient, se servaient de ces espaces, en avaient besoin pour vivre au quotidien, l'un s'en retrouvait exclu, où les règlements qui étaient construits pour les gérer devenaient tellement complexes qu'ils étaient forcément en faute et forcément pénalisés de les pratiquer. Donc finalement, en 1215, un texte est élaboré pour préserver une partie de ces espaces. Robin des Bois était le pied de. Le personnage de Robin des Bois, on était le pied de cette idée-là, de la défense de ces bois, de la défense des terres, contre justement des appropriations, ces phénomènes d'enclosure, consistant à privatiser des lieux où les gens allaient ramasser ce que la nature mettait à leur disposition, Et puis en même temps, c'est lui aussi qui entremet la forêt pour qu'elle soit aussi productrice de déchets. Donc voilà, puis on trouverait des modèles qui sont similaires, notamment chez les soyeux, lors de la conférence, j'en ai dit que vous avez parlé de cet aspect-là, et avec l'idée que le modèle communautaire des soyeux biomèques avait plutôt bien fait ses preuves à cette époque-là, puisqu'il avait permis que l'industrie de la soie soit à la fois plus innovante et plus productive que celle des industriels britanniques. Alors, ça c'était avant le numérique. Avec le numérique, on a un certain nombre de révolutions technologiques qui font que cette question qui se posait à ce moment-là sur l'accès à des biens ou à des ressources, qui était très matérielle, se pose peut-être désormais par rapport à des ressources. Je ne dirais pas de matériel. Vous me demandez pourquoi dans mon exposé, finalement, je dirais que le numérique, ce n'est pas la dématérialisation. Il va falloir se méfier de cette idée de la dématérialisation. Et le numérique, c'est quelque chose de synonyme. Mais ces révolutions technologiques, elles transforment les moyens que nous avons de conserver, de produire, de diffuser, d'organiser les informations, des systèmes, des objets contenant des signes, et qui nous permettent, du coup, de partager, quand je dis des informations, c'est de partager derrière des savoirs, de partager de la culture, de partager des connaissances, de partager des données. Et ces technologies-là nous permettent de les partager rapidement, de les utiliser de façon planétaire, qu'on peut modifier une ressource qui a été copiée sans altérer celle qu'il y avait avant. Quand on la copie, il n'y a pas de perte. Si on revenait sur la différence entre la logique et le numérique, je serais tenté de dire, pensez à l'époque où on avait des cassettes pour écouter de la musique, et bien quand on enregistrait une cassette depuis un disque, il y avait un peu de perte de qualité entre le disque et la cassette. Quand on enregistrait une cassette à partir d'une cassette, on enregistrait une cassette à partir d'une cassette et enregistrait une cassette, on arrivait à un son qui était très brouillard. Or, chacun se représente en compagnie de nous aujourd'hui. Lorsque on copie un MP3 sur son ordinateur et que son ordinateur on va le copier sur son téléphone et puis que finalement de son téléphone on va l'envoyer à un copain qui va sur son téléphone qui lui-même va le copier sur une clé USB, finalement quand il viendra passer sur notre chaîne Wi-Fi à la maison, la qualité ne sera pas moins bonne. Pas meilleure, mais pas moins bonne. Ça va être un MP3. Entre l'endroit où j'avais l'origine et puis l'endroit où c'est arrivé, après c'est trop bien que je change. Là, je n'aurais eu aucune perte. À l'ère de l'analogique, j'aurais eu de la dégradation à tous les étages. Que on se retrouve donc dans un phénomène qui est particulièrement nouveau vis-à-vis des données, des informations, des objets, entre guillemets, culturels numériques, c'est qu'on a accès désormais à une forme d'abondance. Une abondance qu'on n'a pas connue jusqu'à ce jour. Du temps des mathématiques, on imaginerait qu'un livre, c'était quelque chose de très rare. Et que ça avait une valeur particulière, du coup. Qu'à partir du moment où on passe à l'imprimerie, le livre va devenir plus accessible. Et qu'à l'ère numérique, le livre, il prend beaucoup moins de place à stocker, il est beaucoup plus facile à transmettre, beaucoup plus facile à gérer et puis même à l'exploiter. doit utiliser des logiciels pour faire de la reconnaissance à l'intérieur du livre, compter des choses, retrouver des passages, etc., etc. Donc on va avoir une approche des contenus qui est plus rapide, rester les données en qualité, ça risque peut-être à discuter, mais en attendant, on a des potentialités de manipulation, de transformation, qui sont sans commune mesure avec ce registre-là, à nous, qui sont des fruits qui ne font a priori que diminuer. Et aussi, je dis a priori que diminuer, parce que ça pose un problème. Ça pose un problème, c'est que finalement, je me retrouve avec des objets qui avaient une certaine valeur, dont la sorte, c'est des valeurs des objets culturels, étaient probablement les années 70-80. Eh bien, ces objets-là perdent de la valeur, d'une certaine manière, du point de vue purement industriel. Je ne parle pas du point de vue de la qualité, mais du point de vue industriel, ils perdent de la valeur. Parce que le modèle industriel est un modèle qui est basé avant tout sur l'idée que la valeur est créée par la rareté de la ressource. Or, je n'ai plus ce frein qui est la rareté de la ressource. Ce qui va déséquilibrer le fonctionnement des industries culturelles et pas seulement des industries culturelles. Qui se retrouvent face à une situation qui veut dire, eh bien, finalement, quand je vendais un 45 tours, que je vendais aux alentours de 80 francs dans les années, je pense, 80, on va être à peu près à 20 francs, 45 tours. Sur un 45 tours à 20 francs, il devait y avoir un prix cassé, 2 à 5 francs, servis aux artistes. Le reste était justifié par le coût de la matière première, par le coût de la distribution. Il fallait transporter, il fallait aussi qu'il y ait un circuit vendeur, il fallait qu'il y ait, etc. Toute une industrie autour qui, a priori, justifiait ce prix d'un franc. Quand on est à l'ère du numérique aujourd'hui, le coût du transport, entre l'Apple Store et un iPhone, il n'existe pas. C'est le coût de votre connexion Internet que vous avez déjà payé. Le salaire du vendeur a été payé plusieurs millions de fois au travers des différentes personnes qui se sont connectées sur le petit logiciel qui, lui, va chercher sur le disque dur le fichier qu'il va vous envoyer. Donc, on voit bien qu'on a des coûts matériels qui n'ont plus raison d'être. Et pourtant, le prix du morceau de musique est strictement le même. Et les artistes sont pas plus riches. Donc, il y en a qui manifestement ont réussi à maintenir un système, un modèle classique, mais pour maintenir ce modèle classique, ça n'a pas été sans mal. Pour arriver à maintenir un modèle économique classique autour des objets culturels, eh bien, il y a plusieurs processus qui ont été mis en place, qui ont fonctionné et qui fonctionnent très bien. Parmi ces processus, il y a des processus qui sont des processus technologiques.
Parmi ceux-ci, je mettrais tout ce qui est l'ordre qu'on peut appeler l'obsolescence programmée. Plus ou moins finement, mais l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on a des technologies qui finissent rapidement par être usées ou disqualifiées. Alors, on se demande pourquoi des technologies pour lesquelles il n'y a plus de rendement, qui consomment moins d'énergie que l'autre, et bien s'usent 10 à 20 fois plus. Quand je dis 10 à 20 fois plus vite, c'est un minimum, parce que les gramophones, vous en avez encore qui fonctionnent, les chaînes depuis les années 70, si vous avez encore un service particulièrement si on est dans un bon état, ça fonctionne encore correctement. Par contre, l'iPod que vous connaissez il y a 2 ans, eh bien, il est parti à la poubelle. Parti à la poubelle, on ne peut pas changer d'avis. Parti à la poubelle, pour ceux qui sont vendus aujourd'hui, parce que d'ici 1 an et 2 ans, eh bien, le vendeur, le fabricant, aura changé le système de broche qui permet de mettre l'appareil sur le gène Wi-Fi, et fait que l'iPod qu'on a aujourd'hui, on ne pourra plus le docker, le poser sur le nouvel gène Wi-Fi. Et réciproquement, ce qu'on aura acheté, on ne pourra pas le mettre sur le gène Wi-Fi qu'on a acheté l'année dernière. Donc, on est ici dans le sens programmé. Technologique aussi, avec un truc qui serait un mi-chemin entre les deux. Que j'appelle l'IRM. Alors l'IRM, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. En anglais, ça veut dire Digital Rights Management. Donc, ça veut dire système de gestion des droits numériques. Ça veut dire que pour tout objet culturel, pour tout ce qui existe, numériquement, pour qu'on fiche, il y a le droit d'utilisation, de diffusion, de distribution, de reproduction. Ces droits sont du moins explicites. Mais on a désormais la possibilité d'inclure ces droits à l'intérieur même des fichiers. Il est même possible d'inclure ces droits en leur donnant à eux, aux fichiers ou aux lecteurs des fichiers, la possibilité de gérer ces droits et de les interpréter pour savoir si on a le droit ou non de jouer le morceau de musique, par exemple, en mettant son valeur. Donc l'IRM, c'est des informations, des données qui sont à l'intérieur des fichiers. Et qui peuvent interdire la lecture d'un fichier que vous avez acheté sur des appareils pour lesquels les DRM que vous avez acquis avec le morceau ne sont pas vérifiés. Typiquement, vous avez donc des fichiers dans les formats WMA, ils sont les formats des fichiers métalliques de process. Vous avez des trucs qui font que vous ne pouvez le lire que sur certains logiciels, dans certains environnements. Qu'à l'intérieur des télévisions, il y a des prises HDMI, il y a les outils, il y a la possibilité, pas toujours activée, mais il y a la possibilité de vérifier si les DRM sont acceptables au niveau de la lecture de cet appareil. Imaginons par exemple qu'on vous a refilé un disque sans vous assurer de la provenance. Eh bien, l'appareil va vérifier que finalement le numéro de l'appareil qui est autorisé à le lire, ce n'est pas le numéro de votre appareil. Donc il ne le lira pas. Et peut-être que vous l'avez acheté, en fait, simplement pour le passer sur le platine disque qui est mort entre temps. S'il y a un composant qui est mort en tout temps, vous avez changé de composant, mais ce composant n'a pas le bon marqueur. Enfin, vous n'avez plus le droit de lire le fichier qui est vôtre. C'est-à-dire qu'on va transformer de cette façon-là, non plus le fichier comme étant une donnée matérielle vous appartenant lorsque vous l'avez acheté, mais une concession d'usage de plus en plus à l'ère numérique, à l'ère de la dématérialisation. Ce qu'on vend aux gens, c'est la concession d'utilisation, du droit d'utilisation, de la location, plus ou moins longue durée, plus ou moins ouverte. Mais aujourd'hui, on n'achète plus les données. Ça fonctionne pour le morceau de musique, ça fonctionne pour l'environnement des ordinateurs. Lorsque les gens achètent
créateur
avec une dose d'intervention,
une dose de leur parfait cadeau. Une dose
pour avoir payé une licence d'utilisation
avec l'ordinateur sur lequel il est installé. Et ce Windows n'est acheté, ça fait, il n'est acheté que pour cet ordinateur-là. C'est-à-dire que si vous cassez votre ordinateur, mais que votre disque dur, finalement, il marche quand même, parce que finalement, il n'y a peut-être qu'une partie de l'ordinateur qui a cramé parce que vous avez pris une fondation de n'importe quoi, mais le disque dur est encore opérationnel, vous n'avez pas le droit de dire, je prends mon disque dur, je le branche dans un nouvel ordinateur, dans lequel je passe le disque dur, et je vais me servir du Windows que j'ai acheté en plus de tout honneur avec l'ordinateur. Non, vous n'avez acheté un Windows que pour l'utiliser dans l'ordinateur précédent, et pas là. De la même façon, si vous achetez un logiciel de traitement d'image qui s'appelle Photo quelque chose, donc d'une société, donc je fais des mauvais jeux de mots, les mauvais logiciels, c'est la Adobe, je ne sais pas si c'est la c'est pas terrible. Donc, vous avez des logiciels comme Photoshop, vous achetez Photoshop. Les gens se le font prêter par des gens bienveillants. Mais quand vous achetez Photoshop, généralement, vous avez le choix d'acheter Photoshop pour un ordinateur et seul, ou après, acheter des licences particulières qui vous autorisent à l'utiliser sur plusieurs ordinateurs. C'est-à-dire que quand on achète un Photoshop, c'est pour ne l'utiliser que sur un seul de ses propres ordinateurs. Si vous voulez l'utiliser sur votre portable et sur votre ordinateur de bureau, je pense que vous faites des choses bien et que une fois que vous avez fini de vous en servir sur le portable avant d'aller sur celui du bureau, vous le désinstallez de l'ordinateur portable pour ensuite aller l'installer sur l'ordinateur de bureau. Et là, vous avez le droit, avec la seule et même boîte, de le faire. On voit bien que c'est compliqué, mais on est dans ces logiques qui sont autour de des DRM. Quand j'ai parlé de Windows, c'est aussi autour des logiques qui sont de certaines logiques économiques qui sont celles des ventiliers. Les ventiliers, donc Windows installé par défaut sur un ordinateur, ce sont pas les ventiliers, c'est interdit. C'est interdit par le code de la consommation, mais il n'empêche que ça fait des années que systématiquement, quand les gens attaquent les fabricants qui vendent des ordinateurs et Windows intellectuels, les gens quasiment à chaque fois gagnent des procès. Ceci étant, vu qu'en France vous n'avez pas la possibilité de faire ce qu'on appelle classe, ça veut dire qu'il faut que vous, tout seul dans le coin, vous partiez pour vous battre dans 2 ans contre des armées d'avocats qui sont en place, qui n'ont pas envie de lâcher le morceau, pour qu'au final, la justice vous dise. Vous avez raison, Microsoft vous a rendu 75 euros, donc ils vont vous donner 75 euros, puisque c'est dommage d'un cas. Comme on a pas consacré une partie de sa vie à ce genre de bataille. Donc, effectivement, même s'ils perdent, eh bien ça continue. Il y a un autre terme qui apparaît dans le côté économique, c'est le cloud. Le cloud computing. Donc ça, c'est un truc dont vous avez commencé à entendre parler, depuis 2-3 ans, ça commence à monter en source. Pour simplifier ce que je vais appeler le cloud computing, l'informatique dans le cloud, c'est pas une informatique de valeur. C'est une informatique déportée. Ça veut dire qu'on va vous expliquer le blockchain anglais, c'est très partiellement vrai,
que possiblement, que pour le bien de l'environnement, pour faciliter notre vie de nomade, qui voulons pouvoir accéder à nos comptes depuis partout, à notre agenda, qu'on soit avec notre téléphone, notre ordinateur, qu'on soit en voiture, qu'on soit au boulot, qu'on soit au week-end, eh bien, au lieu de stocker sur nos machines, on va les stocker de façon déportée sur d'autres machines qui, grâce au réseau Internet, qui est partout accessible, comme chacun le fait, eh bien, nous permettra d'accéder à nos données. C'est théoriquement effectivement quelque chose de possible, théoriquement quelque chose peut émanciper l'utilisateur nomade, mais je dis théoriquement. Théoriquement, parce que, malgré tout, le réseau peut y accéder. On le fait par l'intermédiaire de prestataires. Et je vous montre juste un petit truc bête, c'est que on entend bien, par exemple, on va faire le lien entre deux choses, les formats de musique et puis l'informatique dans l'image, c'est que on voit enfin monter un débat autour de l'idée que le format MP3, qui est utilisé pour écouter de la musique sur des petits baladeurs, que le format MP3, c'est un format qui n'est pas bien. Parce que c'est un format compressé et destructeur. Et donc, il altère la qualité de la vie. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat de MP3. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Qu'à côté de ça, il existe des formats, notamment des formats libres, les gens, même que je vais dire, je suis capable de souvenir que ces formats libres sont très bien, qui permettent d'avoir de l'audio de très bonne qualité, sans destruction des données. Et on va avoir des formats masquages, bon format. L'inconvénient de ces formats, c'est que ce sont des formats qui sont très larges, qui occupent beaucoup de volume. Quel est l'intérêt d'avoir des formats qui occupent beaucoup de volume? Et là, ce qui se réalise, c'est un truc, c'est que le forfait 3G, puisque vous faites en 2-3 mouvements, si vous avez des très gros formats, et là, vous allez dire, oh, c'est très bon. Je ne pourrais pas profiter sur mon téléphone des morceaux de super bonne qualité que j'ai sur mon ordinateur et que j'aurais pu m'envoyer, me récupérer, etc. Chouette, allons à une tâche. Et voilà. Tout ça, c'est réussi. La qualité dont vous n'avez strictement pas besoin devient indispensable. Et on va pouvoir vendre des morceaux de tâche. Donc une informatique qui pourrait laisser, bien, finalement, reste à niveau, parce que vous voulez augmenter le niveau d'exigence qui nécessite du coup qu'on ait des ordinateurs toujours plus puissants, toujours plus rapides, avec toujours plus de capacité de stockage. Prenez un exemple que j'avais fait ce truc, la taille des photos sur les appareils photo. Il y a une dizaine d'années, on avait des photos qui étaient 3,2 mégas. Alors on va pas s'occuper de ce que ça veut dire les chiffres. Mais 3,2 mégas, ça nous permettait d'avoir des photos qui rendaient à peu près aussi bien que les photos qu'on faisait avant en analogique, en argentique, sur du papier photo, sachant qu'il y a une dizaine d'années, même quand on avait un appareil photo numérique, on allait encore faire développer quelques photos pour les mettre dans un album photo. Et pour avoir une photo sur papier photo, il faut nous. Photo de bonne définition. Alors, je veux dire que la bonne définition ici, et les autres devraient être encore meilleures, elle est de 320. 320 dpi. 320 dpi. Et on a des photos qui sont 3,2 milliards, qui sont jolies, qu'on peut mettre dans nos albums, et on a par exemple à côté des polaroïdes, elle est dans les années 70. On est encore même plus jolies. Aujourd'hui, vous avez des appareils photo qui vous permettent de faire vachement plus de photos à plus jolies, plus vite, plus belles, et surtout, vos photos avec ces 3,2 mégas, aujourd'hui,
mon frère dit 14, 24, avec des définitions qui sont supérieures aux 320 dpi dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, où les photos ne doivent faire pratiquement plus sur papier, parce que à fond, notre usage a changé, on les regarde sur nos téléphones, on les regarde sur nos ordinateurs, sur nos ordinateurs ou nos téléphones, à part les vins, nos photos, elles passent 320 dpi. On a besoin de 5 fois moins. Donc ça veut dire que pour la même qualité de rendu devant nos yeux, on pourrait avoir des photos 1,2 mégapixels. Et on a des photos qui sont beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on nous vend des appareils photo en nous disant qu'ils sont vachement bien, parce qu'ils nous permettent d'avoir des photos qui, si on les regardait grandeur nature, parce que vous voyez bien, quand vous mettez vos photos sur votre ordinateur, vous voyez qu'ils sont toujours réduits à 75 ou 80%. Donc ça voudrait dire que pour les voir à l'échelle où vous les avez prises, il faudrait multiplier par 10 taille de votre écran. Vous voyez un petit peu le gaspillage technologique, mais l'intérêt de ce gaspillage technologique, c'est qu'on a maintenu le coût des appareils photo. J'ai justifié que j'ai eu des années de distance, pas du tout ça. Après, vous avez tout un tas de processus politiques, juridiques qui se mettent en place. En France, vous avez certainement une variété de tout un tas de questionnements juridiques, de commissions, de comités qui sont mis en place autour de choses comme la DOPI, qui est une autorité qui sert à attraper une personne en 2 ans. Mais ça coûte plusieurs millions d'euros pour protéger les intérêts du cinéma français, dont chacun sait que c'est un secteur qui est en crise, puisque pour la 3e ou 4e année consécutive, le CNC dégage des bénéfices, comme jamais dans la vie, dans l'histoire du cinéma. Mais c'est des gens qui sont obligés d'expatrier dans les pays de l'Est pour sauver leur fin de vie. Et puis, les raisons politiques qui sont plus liées à des questions de lobbying que à des questions parfaitement rationnelles, puisque aujourd'hui, vous avez effectivement de grands lobbies informatiques, de grands lobbies des industries culturelles, qui manifestement arrivent à avoir beaucoup d'influence sur les décideurs politiques, alors qu'ils ne nous rapportent rien. La plupart des grandes entreprises informatiques qui gagnent de l'argent actuellement en France ne sont pas installées en France, ils sont installées en Irlande. Que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit Amazon, que ce soit Oracle, etc. Ils sont installés en Irlande. Ils n'ont pas d'impôts en France. En France, ils ne font que récolter, pas grand-chose en fait. Si en France, ils font des opérations de lobbying en partenariat avec le CNDP, l'éducation nationale, qui leur permet de montrer de la promotion pour les produits technologiques de leurs différents arcs à l'intérieur même des bâtiments publics. C'est une autre réalité, on pourra en montrer peut-être. Mais voilà, donc on voit qu'il y a quand même tout un tas de pratiques industrielles, politique et de logique qui se mettent en place pour contrôler et maintenir une économie, pourtant à prix de l'essai, qui finalement coûte quelque chose, alors qu'elle pourrait, avec vous, nous aurions coûté peut-être nous renforcer un peu. Alors, je pourrais revenir dans le détail, j'avais prévu éventuellement de prendre le mal hérité. J'ai trouvé que cette image-là était vachement bien, quelque part sur le net, et que les industries arrivent aussi à faire en sorte que les gens qui disent le mal que j'ai dit sur la table d'avant, eh bien, ils sont vilains parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ces entreprises, elles nous facilitent la vie, elles nous rendent la vie tellement plus jolie. Donc, j'ai bien aimé cette idée d'associer un produit qui est le produit qui a recréé
la rareté sur la musique, avec un Webster, celui qui a participé à la mise en place des DRM et qui fait que des ondes et ils ont sur leurs appareils des technologies qui vous empêchent de passer par autre chose que leur propre technologie. Donc un ensemble de DRM qui font en sorte que de plus en plus on utilise des technologies qui déportent la façon de fonctionner. Les gens qui ont une tablette de cette marque auront peut-être constaté ces derniers temps que lorsqu'ils ont un compte chez Skype, ils sont en permanence connectés. Même quand ils croient avoir éteint leur appareil, ils sont connectés. Parce que le Skype, finalement, n'est pas chez eux. Il doit être chez celui qui leur a vendu la tablette. Donc des gens qui prônent l'idée de la simplicité, de l'intuitivité, il n'y a pas d'intuitivité dans l'informatique. Il n'y a que des apprentissages culturels, pas culturels. Mais on n'est pas en sachant de faire des choses. On n'est pas en ayant envie de mettre le doigt sur une icône. On n'a pas naturellement un geste qui caresse un bout de plastique ou un bout de verre et qui fait que ça se met à bouger. C'est pas naturel. Donc, c'est des choses qui s'intéressent. Mais ils arrivent à faire en sorte qu'à partir du moment où quelqu'un dit du mal d'eux, et les autres sont dans cette situation. Le syndrome de Stockholm, la situation de l'otage, qui arrive toujours à trouver de bonnes raisons de préserver celui qui l'a mis dans cette situation de dépendance, celui qui l'a enfermé.
D'un autre côté, admettre qu'ils ont eu tort, c'est pas non plus terrible pour les otages en cuivre.
Voilà. Et ça, c'est un phénomène qui était observé dès les années 60 de façon scientifique et systématique par un psychosociologue qui s'appelait Milgram et qui a vu au travers de ça ce qu'on a appelé le concept de soumission à l'autorité. C'est-à-dire un ensemble de processus qui amène toute personne à défendre un petit bout de grain par-ci par-là, à expliquer que finalement il n'est pas responsable de et il ne fait que un petit a priori la langue à deux carrés. Même si ce n'est que fermé, un wagon à question, à l'intérieur duquel il y a des personnes, qui part dans une direction dont on sait qu'il ne revient plus jamais, mais que nous on n'a jamais été au bout de la ligne de chemin de fer, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a fait que fermer le wagon. Donc, je dis que ça c'est le mal absolu, mais il y en a qui ne sont pas super depuis. Mais... celui-ci, pour moi, incarne véritablement les années 2010 et cette accumulation complète de l'ensemble des processus, allant effectivement de la contrainte par des technologies fermées propriétaires en permanence à des pratiques de lobbying auprès des personnes qui aboutissent à ce que, par exemple, un président de conseil général renonce à faire voter une subvention pour les transports scolaires, mais arrive à faire distribuer des iPads pour l'ensemble des élèves de 6e. Ça n'empêche pas de dire des normes à la justice. Ah, alors l'idée du partage d'innovation, c'est quelque chose qui a pris corps parce que on a dit qu'à un moment donné, les communs, finalement, ça terminait mal au travers d'un truc qu'on a appelé la tragédie des communs, et donc ça a été théorisé par un économiste et publié dans un Science en 1968, donc c'était par Harding. Et qui expliquait que le problème des biens communs, et des fameux communaux que je parlais tout à l'heure, c'est que finalement tout le monde emmène son troupeau paître sur le communal, et finalement le communal
finit par être fournie par les plus de vaches de l'ensemble des vaches du village qui viennent, et que la ressource, elle finit par être tuée par une activité collective finalement opportuniste, mais pas coopérative, pas suffisamment coopérative pour entretenir des réseaux agricoles. Et ça, c'est une théorisation intellectuelle qui s'oppose à des travaux qui ont été faits par Elinor Ostrom, donc qui est décédé l'année dernière, et qui en 2009 était prix Nobel d'économie, et qui a travaillé justement sur cette pensée théorique des communs, mais étayée par des travaux d'observation, et de constater que, notamment, dans la plupart des villages paysans, à peu près partout sur la planète, il y avait des pratiques de gestion commune, bien finalement, ça marchait plutôt très bien, plutôt économiquement. Et à peu près partout, avant qu'on impose un modèle capitaliste, eh bien, on se retrouve avec des gens qui sont capables, à plusieurs, de gérer par exemple la ressource de l'eau. Je connais le cas des puits hier. La plupart du temps, vous avez vu dans les villages des campagnes, vous avez des lavoirs de fond. Et que, depuis des siècles et des siècles, en France, on n'a pas de soif. Et que ces puits-là, ils n'étaient pas inondés. Alors, c'est bon, depuis qu'effectivement, il y a des compagnies des eaux qui nous amènent l'eau directement dans les maisons. Mais avant que les compagnies des eaux amènent l'eau dans les maisons, eh bien, une fois de temps en temps, les gens des hameaux nettoyaient ensemble ce type d'équipement. Donc, ça fonctionne. Cette technologie-là, on s'aperçoit que l'ère numérique, elle trouve aussi des nouvelles illustrations de lieux d'expérimentation et de réussite. Parmi ces lieux d'expérimentation et de réussite, bien, il y a un endroit, c'est le logiciel libre. Donc, je vais revenir un tout petit peu plus en détail sur ce que c'est que le logiciel libre, mais c'est un endroit où des gens, effectivement, fabriquent à plusieurs, alors que ils font partie d'espaces de travail, d'espaces de vie qui sont différents, et bien ils vont collaborer, coopérer au développement de certains métiers de France. Vous avez d'autres exemples qui se sont développés aussi depuis, notamment et bien, ce qu'on appelle les Fab Labs. Donc les Fab Labs, c'est des laboratoires de prototypage, ou plus exactement, c'est des petits ateliers collectifs. Alors, ils sont dédiés parfois à des technologies un peu de pointe, que les gens ne peuvent pas faire tout seuls, mais à plusieurs, on doit les faire fonctionner. Donc, si vous cherchez des trucs là-dessus, vous trouverez notamment pas mal de choses autour des imprimantes 3D. Des imprimantes 3D, ben, de la même façon qu'une imprimante, ça vous parle pour écrire du texte et mettre des images sur du papier. Une imprimante 3D, c'est une technologie qui permet de créer des objets en volume à partir d'un système qui fait fondre du plastique, point par point, et puis qui va monter en volume des objets. Donc, avec une imprimante 3D, on ne va pas. Alors, on va construire une voiture, mais on peut faire des petits objets. Alors, ça va, des trucs de pure loisir que seraient par exemple des figurines, à des choses qui peuvent être plus utiles, comme par exemple, vous avez un réfrigérateur qui est une pièce en plastique qui casse, et bien, on refait la pièce en plastique pour la remplacer. On peut refaire une pièce qui manque en deux. On a un engrenage qui est placé dans un truc. Et si on a le plan d'engrenage, on donne à l'imprimante 3D et elle va refaire cet engrenage qui permet de réparer la table. Ça permet de prototyper quelques petits objets, alors qu'ils vont du porte-manteau, la lune, le soleil, en l'air, etc. Donc, plein de trucs. Mais une imprimante 3D, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir se payer individuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser individuellement. Donc vous avez la mise en place de ces fables-là autour d'objets de type-là, comme vous l'avez aussi autour d'objets, qui sont des appareils de menuisier, qui vont permettre eh bien, à des gens de construire des meubles, de construire des éléments de chez eux. Et c'est un mouvement qui a démarré
on va dire au MIT, mais qui essaie à travers le monde actuellement. Et vous avez, par exemple, à Lyon, une association qui s'appelle la Fabrique de Géo, qui essaie donc, ça, de développer un lieu à l'intérieur duquel il y aurait accès à des machines outils et un accompagnement permettant à chacun de dire ben, moi j'ai besoin d'une fraiseuse pour faire un meuble pour la chambre de mon gamin. Je vais pouvoir accéder à une fraiseuse avec quelqu'un qui me filera le petit main qu'il faut pour pas que j'ai les deux doigts. Devant la crise, d'arriver. C'est parti des défis, on doit mettre le mot doigt et le mot fils à chaque fois qu'on dit une conférence. Donc on a constaté que très souvent dans la plupart des conférences faites cette année dans le cadre de la saison de l'université populaire, la plupart des temps les gens arrivaient avec plusieurs fois le mot crise, mais on voyait beaucoup plus rarement arriver les nouveaux. Vous aurez noté, hein, vous direz aux responsables ce que j'ai mis deux doigts dans la crise. Ce soir, j'ai placé les deux doigts quelque part. Pardon ? Voilà. Mais les gens sont là pour vous dire que on arrive bien à mettre les deux doigts au bon endroit. Mais. Donc, la tragédie des commons, c'est cette idée-là, et. Ben, l'idée aussi qu'on va retrouver à différents endroits, c'est de lutter contre les free riders, les gens qui profitent. Alors, les free riders, c'est plutôt aussi quelque chose qu'on pourrait associer à autre chose qui se développe un peu dans ce même type d'esprit. Ce sont les logos qui sont partagés. Les logos qui sont partagés, donc, où vous avez des collectifs qui vont avoir des lieux communs qui vont partager des espaces de co-travail, en anglais de co-working, et vous avez des espaces de co-working avec des gens qui sont là de façon stable, vous avez des espaces de co-working avec des gens qui viennent par période de façon alternative, et puis vous avez entre guillemets des co-workers qui sont beaucoup plus nomades que les autres et qui s'arrêtent un bout dans une ville, un bout dans une autre, et qui finalement profitent des outillages, des équipements, de l'organisation, de tout ce que les gens mettent autour de ces espaces-là, et qui eux ne font qu'avoir une attitude opportuniste et de profiter de ces choses-là. Donc, des espaces bien entrés, quelques-uns, hein, par joint. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, par contre, c'est notamment d'un truc dont on entend parler aujourd'hui, c'est l'open data. Donc l'open data, c'est l'idée qu'il existe des données qui peuvent être libres, qui peuvent être rendues à la communauté pour que la communauté les exploite selon ses besoins. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme open data ? On va dire toutes les données qui sont stockées dans la base. Toutes données qui sont stockées pourraient presque être dans le bon data sous réserve de respecter par exemple le droit à la vie des gens. Mais après, on voit selon les pays, on a une notion de ce qui est la vie privée qui n'est pas la même. Aux États-Unis, ils ont parfois moins de problèmes avec qu'est-ce qui peut être divulgué sur les personnes, qu'est-ce qui peut être divulgué sur les lieux. Donc typiquement, vous avez des projets autour de l'open data aux États-Unis, bien qui vont permettre de donner des informations sur le, ça qu'on trouve aussi, vous avez compris aussi en France, hein, sur le nombre de constructions qu'il y a dans une ville, où est-ce qu'elles ont lieu, quels sont les revenus des personnes qui y sont, etc., etc. Donc on peut avoir des éléments comme ça, et on peut avoir des éléments qui sont liés à la criminalité. Et vous avez des projets qui utilisent Open Data pour dire, eh ben, on va pouvoir, grâce à l'Open Data et la géolocalisation, par exemple, proposer sur les GPS des itinéraires qui sont plus sûrs. Vous savez que, on a un quartier où il y a un fort taux de criminalité, eh bien, le GPS ne va pas vous proposer forcément le parcours le plus court, mais le parcours le plus sûr, qui est le quartier.
Alors, ceci étant, vers chez moi, il y a un virage, ce serait peut-être pas mal qu'il le masque sur les GPS, comme quoi ils ont de pluie. Ben, c'est que les gens ne passent pas par là, parce que tous les gens de pluie, il y a quelqu'un qui est dans le mur. Mais voilà. Je l'ai déjà dit, j'ai entendu une chose avec les GPS, c'est la fameuse GPS. Ah, vous voyez, vous en rappelez, regarde. Vous l'attendez maintenant, hein. On en rêve, tous les femmes l'attendent du GPS. Enfin, tous peut-être. Donc voilà un truc pour l'open data. L'idée aussi des archives ouvertes, c'est quelque chose qui se développe dans les milieux scientifiques. C'est de faire en sorte que, effectivement, les milieux scientifiques, en France, aux États-Unis, en Europe, à différents endroits, revendiquent. Ça, de nombreux scientifiques revendiquent l'idée que, à partir du moment où de la recherche est financée par des deniers publics, eh bien, les articles qui sont publiés par des chercheurs financés par le public doivent être accessibles à tous. Or, actuellement, vous avez un mouvement qui s'est notamment fortement développé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous avez des revues scientifiques. Il n'y en a pas, énormément d'éditeurs de revues scientifiques, mais qui du coup contrôlent très bien le marché, et ils sont très nombreux, il y a de temps en temps au moins ce genre de truc, et qui vont mettre par exemple des conditions d'exclusivité sur des articles. Ils font que les articles pendant X années, eh bien, ne peuvent pas être diffusés autrement que par l'intermédiaire de la revue. Or, ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que la plupart du temps, ces revues scientifiques, qui sont maintenant quasiment plus que des revues électroniques, sont des revues qui ne vivent que d'une seule façon. C'est en étant vendues dans les bibliothèques universitaires. Et c'est donc les abonnements des bibliothèques universitaires qui permettent de financer des exclusivités sur des chercheurs qui sont payés par service public. Alors si des logiques de ce type-là, ça ne s'appelle pas de l'assistanat, c'est pas pour vous. On est quand même assez proche de forme d'assistanat. Donc il y a eu des grèves hein, de chercheurs en médecine, de ne voulant plus publier, ne voulant plus que les revues se retrouvent. Et puis il y a désormais des lieux de publication, d'archives ouvertes. Et en France, vous avez aussi un certain nombre d'archives gérées par CNRS ou par d'autres, ou par des gens de façon indépendante qui permettent d'accéder à ces données. Je me mets aussi l'éducation en dessous parce que vous avez la naissance de tout un tas d'open courseware, donc de cours ouverts, de cours libres, qui font que vous avez des gens qui décident de diffuser librement les contenus scientifiques, pas les contenus par leur pédagogique, leur ressource pédagogique pour qu'elles puissent être réutilisées par d'autres. Alors vous avez en France notamment un exemple qui est assez intéressant et plutôt opérationnel, c'est que vous avez un groupe comme ça de professeurs de mathématiques qui ont travaillé pendant plusieurs années sur l'élaboration d'une collection complète de livres de maths qui couvrent désormais les programmes de la sixième à la terminale. Et qui sont des livres libres. Donc, on peut les télécharger librement et les imprimer soi-même, mais ça n'empêche pas un éditeur d'en faire des versions taxées. Donc, tout le monde peut avoir accès à ces contenus-là, donc c'est le projet qui s'est cherché, c'est de la maths. Donc, S-E-S-A-M-A-T-H. Et vous verrez que c'est de la maths, il y a tout un tas de ressources. Voilà, et désormais on a des choses qui vont même du côté des technologies matérielles qui se libèrent, qui sont en matériel libre, avec des plans de matériel libre, c'est-à-dire que vous avez des gens qui autour par exemple d'Arduino eh bien, ont la base d'un microprocesseur et d'un ensemble de technologies permettant d'élaborer des appareils électroniques, des micro-ordinateurs, des espèces de boussole, etc., sur du matériel dont les plans sont libres. Donc, n'y a pas une fermeture sur cette technologie-là, ce qui fait que notamment, on devrait, dans les semaines et les mois qui viennent, voir apparaître une nouvelle console de jeu. Alors, elle n'est pas basée sur des Arduino, sur des logiciels qui sont un petit peu du même type, une nouvelle console de jeu qui s'appelle Ouya. Et la console Ouya, c'est un petit boîtier qui manque comme ça, mais qui permet de faire des jeux grâce à des logiques, comme ça, à la fois de financement par de futurs utilisateurs et puis l'utilisation de technologies libres, technologies. Ce qui fonctionne au niveau du numérique, de ce qui est numérisable, eh bien finalement, on voit aujourd'hui que ça relance, ça remet en avant un certain nombre de concepts qui existent avec les biens communs et qui reprennent une nouvelle fraîcheur. Les logiques de coopérative, j'en ai parlé au travers des espaces de coworking, mais qu'on pourrait trouver autour, par exemple, de la question des semences aujourd'hui, et un ensemble de micro-innovations sociales qui font qu'il y a une reprise en main et un retravail local, de collectifs locaux, de communautés locales, donc de gens qui décident ensemble. Donc on n'est pas uniquement dans la sphère digitale. Voilà. Alors, je pourrais rentrer un peu plus dans le cas du logiciel libre, ça peut-être plus par rapport aux questions qui pourraient être posées autour de ça. Le logiciel libre, c'est un logiciel qui se caractérise par quatre libertés qui sont ici symbolisées par l'idée que c'est une liberté d'utilisation. Un logiciel libre, les gens peuvent l'utiliser où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, et si ils l'ont, ils peuvent l'utiliser sur tous leurs ordinateurs, si ça marche sur tous leurs ordinateurs. Alors, dans les études, si ça marche, effectivement, il va bien se dire ça. Il faudra le dire aussi pour le reste. Et ensuite, l'idée que on peut le regarder comment il est fait. On peut l'étudier. On peut en prendre des morceaux, regarder comment c'est fait. On peut le modifier un logiciel libre. C'est-à-dire que normalement, un logiciel libre, il est vendu avec ses plans, on va dire. Avec les plans de construction. Et si finalement, vous voulez une maison qui ressemble à la maison qui est sur les plans, mais en inversant la cuisine et le salon, ben vous avez le droit de le faire. Alors que d'une certaine manière, quand vous avez du logiciel propriétaire, eh ben, vous achetez une maison sur des plans que vous voyez mais que vous n'aurez jamais en main, et puis en dehors des propositions qu'on vous a faites sur le choix des tapisseries, eh ben, vous avez beau dire que les WC, vous n'en avez pas besoin de 3 parce que vous n'avez que 2. Si on en a 3 dessus, on en a 3 dessus, vous n'aurez pas le droit de transformer en placard le 3ème WC. Si par hasard, vous direz que pour cette façon vous l'avez fait, vous serez référencé. Donc, liberté de modifier. Liberté de modifier, c'est ce que j'ai dit. Alors, liberté d'étudier, d'observer, de voir comment c'est fait. Pour la plupart des gens, ils disent enfin, moi, je ne peux rien en informatique. Alors, savoir comment c'est fait dedans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt que vous le fassiez vous-même systématiquement et régulièrement, mais c'est important que vous sachiez que vous pouvez y avoir accès, que vous pouvez le faire par quelqu'un, que vous pouvez aussi vous dire qu'il y a des gens qui sont vachement plus paranoïaques que vous, qui finalement préféraient passer quelques heures à apprendre l'informatique pour aller voir ce qu'il y a dans le code. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, en tout cas, vous le faites, n'importe qui peut aller voir dans la boîte, et bien ça veut dire qu'on ne va pas mettre n'importe quoi dans la boîte. On ne va pas mettre des petits logiciels qui vont récupérer des informations et les envoyer à l'un des autres. Parce que ça va se voir. Quelqu'un qui le verra. Si quelqu'un voit qu'il y a des fuites, il aura envie de savoir pourquoi il y a des fuites. Il ira voir, il trouvera. Et comme c'est un logiciel libre, j'ai le droit de le modifier. Donc de mettre un bon fichier dans le truc qui envoie des données qui m'intéressent pas. Et faire une nouvelle version qui sera un petit peu plus libre et un petit peu mieux. Les gens préféreront sur la même. Et j'ai le droit de partager. Je peux le distribuer avec qui je veux, quand je veux, où je veux, de la façon dont je veux. y compris, j'ai le droit de vendre.
On peut vendre un logiciel. Vous pouvez récupérer gratuitement.
Voilà, moi, dans ma poche, j'ai ici des distributions de logiciels installées sur une clé USB. Il suffit de la brancher sur un ordinateur pour que ça marche.
Il peut la vendre 10 000 francs. Pour avoir des francs. Si vous préférez 10 000 euros, je la vends 10 000 euros aussi. Après, c'est vous qui décidez d'acheter ou pas. Moi, je ne pense pas. Et puis, si vous savez que vous pouvez la trouver gratuitement ailleurs, vous pouvez la trouver à compagnie de notre compte d'État.
Le logiciel libre se pose pas la question de savoir s'il y a des gens qui vont gagner de l'argent avec. À la limite, vaut mieux même si des gens qui sont capables de gagner de l'argent avec.
Parce que ces gens qui gagneront de l'argent avec le logiciel libre,
ils ont intérêt à aider ceux qui font des vendeurs. Ils vont pas tuer les vendeurs, ceux qui gagnent de l'argent avec. Ceux qui vont les encourager. Ils ont intérêt à aider ceux.
Donc, tu fais un petit peu de bruit, toi, là-bas, quand même, hein.
Donc, ils ont intérêt à ce que ça fonctionne, et du coup, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Et que vous l'aurez remarqué, depuis un petit peu moins de 10 ans, en informatique, on est arrivé dans des mers de monopole. Si, à l'entrée des années 90, on avait encore une grande diversité dans l'industrie informatique et dans l'industrie du logiciel. Cette diversité s'est cassée la figure au cours des années 90 et les gens ont commencé à faire en sorte qu'il y ait des concentrations et des disparitions. Et que vous aviez plusieurs logiciels concurrents pour fabriquer des images. Finalement, aujourd'hui en 2010, de logiciels propriétaires, certains des navigateurs, des logiciels propriétaires qui permettent de retoucher des images, il y en a un qui est super connu. Et puis après, quand on vend aux gens aujourd'hui, les logiciels qui vont arriver en deux ou trois dépositions ne sont plus des logiciels. Les seuls logiciels alternatifs qu'on a vus apparaître ces derniers temps sont avant tout des logiciels libres. Que ce soit les navigateurs web, que ce soit les sites bureautiques. Au milieu des années 90, vous avez un combat entre WordPerfect et puis WordOffice, et puis le TUSNOS, et puis etc. Aujourd'hui, le combat il est entre LibreOffice OpenOffice et Microsoft Office. Et puis maintenant, on voit arriver les Google Docs. C'est l'histoire de la dématérialisation, etc. Donc, les logiciels libres sont les seuls avantages. Alors, pourquoi les logiciels libres, aujourd'hui, sont les seuls concurrents des logiciels arrivés en situation de monopole? Ben, parce qu'en informatique, on ne peut pas gagner de l'argent avec le logiciel. Le seul moyen de gagner de l'argent avec un logiciel en informatique, bien, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas le choix. Et c'est l'absence de choix qui permet à celui qui vend le logiciel et qui est le seul à vendre, eh bien, d'établir des règles commerciales qui lui permettent de fixer un prix qui est économiquement libre. Mais à partir du moment où il y a concurrence, eh bien, on ne gagne pas d'argent dans le développement du logiciel. S'il y a une concurrence économique, bien cette concurrence, quand on fait de l'acier, à un moment donné, il y a un coût en électricité et un coût en matière première. Avec l'informatique, il n'y a pas du tout. Il y a quand même des développeurs, il y a quand même des bâtiments dans lesquels on va les mettre, etc. Mais malgré tout, on est dans une situation qui fait que un logiciel, ça ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. D'autant plus que si vous faites un bon logiciel, eh bien, vous ne gagnerez plus d'argent une fois que vous aurez vendu votre bon logiciel. Parce que les gens n'achètent plus s'il est bon. Parce qu'un logiciel, c'est juste pas. Vous payez le temps de quoi vous voulez sur le même fichier. Le bon fichier sera toujours le même. Il ira toujours aussi vite.
Il va pas s'user, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de huiler de temps en temps, mais pas d'usure. Vous êtes obligé de changer l'objet de l'ordinateur, parce que si vous voulez, pour que l'ordinateur il soit obsolète, il ne fonctionne plus. Et puis que sur l'ordinateur suivant, vous n'avez pas la possibilité de remettre ce logiciel de traitement d'image, pourtant vous allez bien depuis quelques années. Vous êtes obligé de prendre une nouvelle version, parce qu'avec le Windows Mach truc, ben celui que vous avez du logiciel, il n'est plus compatible. Mais ça ne suffit pas un logiciel. Donc, pour qu'un logiciel soit rentable, il faut qu'il soit mauvais. Il faut avoir une bonne raison de vendre la version suivante. C'est quelque chose que ça c'est pas. Le logiciel n'a pas les mêmes problématiques. Le logiciel libre, je peux vous dire toutes les semaines qu'il y a une nouvelle mise à jour, parce que de toute façon, il ne rapportera pas plus une nouvelle mise à jour qu'on la rende publique dans une semaine, ou qu'on la rende publique dans un mois, ou dans deux ans, ou trois ans. L'avantage éventuellement, c'est que si j'en fais une de temps en temps, assez régulièrement, ça veut dire que le projet est dedans, et ça assure les gens de dire que ouf, une nouvelle version, ça veut dire qu'ils n'ont pas renoncé à une nouvelle copie. Voilà, donc les biens communs sont un mouvement qui aujourd'hui s'est bien installé dans le numérique, un mouvement qui s'est bien installé dans le numérique, qui est un mouvement par ailleurs qui est un mouvement transnational. Et je pense que notamment il y a un ensemble de mouvements qui sont à la fois des mouvements de terrain, des mouvements militants, des mouvements d'action, mais qui ont trouver une fraîcheur, un développement, et puis développer des capacités d'action, de résistance, d'innovation, qui sont liées justement à l'émergence de l'ensemble de ces technologies numériques qui permettent de partager. Et entre autres, il est difficile de penser l'intermondialisme tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il fonctionne aujourd'hui s'il n'y avait pas les technologies numériques. Et il y a un certain nombre de pratiques numériques de partage qui existent depuis des années et qui sont liées l'histoire de l'informatique et l'histoire de l'informatique. Que c'est un développement de type bottom-up. Alors, je mets le mot ici aujourd'hui pour faire des petits lignes pour vous rappeler que demain, je reparle sur d'autres choses, etc. Donc demain, on parlera un petit peu plus de pire-pire, d'échange et de façon dont les gens s'adaptent eh bien, aux façons de partager. Bottom-up, ça veut dire qu'on part de la base et on va vers le sommet. C'est donc une pratique, la pratique des biens communs, la pratique du partage, c'est une pratique qui aujourd'hui se développe énormément de proche en proche et qui est bien plus efficace, cette technique de partage de proche en proche, que des injonctions plus ou moins éthiques, ce qui nous amènerait à avoir des comportements durables. Voilà, donc on est dans des logiques de mouvement citoyen, puis comme je l'avais dit un petit peu avant, qui dépasse le numérique. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui. Sur ma présentation, quelques repères bibliographiques. Et notamment celui qu'on ne voit pas ici, le lien, mais celui qui est ici. Il y a quelques illustrations que vous avez vues à l'intérieur avec du vert et du blanc. Elles sont tirées donc, d'un document qui est en lien ici. Et oui, ces illustrations. Je recommande notamment aussi le bouquin de l'association des femmes Libre Savoir, Les biens communs de la connaissance. Donc, voilà, pas mal de ressources. Voilà pour cette partie de la présentation.